Bonjour Claire.
Bonjour Olivier, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans cette revue de presse du 30 mai 2023. Je vous donne les titres d'actualité. Nous allons commencer avec le moine Anselgrün qui va donc nous donner des conseils pour savoir comment nous pouvons aimer l'Église aujourd'hui encore et toujours en dépit de tout ce qui la défigure. Nous allons ensuite surmonter ensemble les peines de l'amitié. Je vous lirai un article paru dans Famille chrétienne numéro 2367. Je vous parlerai ensuite brièvement de la prière de veillée pour la vie qui s'est tenue à Saint-Germain-l'Auxerrois à Paris la semaine dernière. Je vous lirai un petit article de présentation et je vous parlerai davantage de Louis Bouffard. Le témoignage est en ligne sur Aletheia. Culture chrétienne, deux livres parus aux éditions Artege. Le premier qui s'appelle « Pourquoi Padré ?» volume 2, 86 questions-réponses sur la foi chrétienne, écrit par les prêtres du Padré Blog. Et ensuite, « Prière dans les difficultés » du père Pierre Amar, dont je vous lirai quelques extraits à la fin de cette revue de presse. Nous commençons cette revue de presse avec la grande question « Comment aimer l'Église aujourd'hui ?» Je vais vous lire les conseils du moine Anselgrün, conseil qu'il a donné au magazine Prier numéro 452. L'Église, qui est constituée de pécheurs, s'est retrouvée plus d'une fois au cœur de scandales. Au IIIe et IVe siècle, les pères pouvaient ainsi la surnommer à la fois « épouse du Christ et prostituée de Babylone ». Mais dernièrement, la révélation d'abus sexuels commis par des prêtres a eu des conséquences particulièrement douloureuses. La confiance des fidèles a été trompée, causant de profondes blessures. Il est important, en outre, de comprendre comment de tels crimes ont pu être commis. Choqués et bouleversés, certains ont la tentation de se détourner de l'Église. À mes yeux, nous dit Anselgrün, il est important de rester en son sein, de participer à sa vie, non seulement, malgré mais justement, à cause de ces bouleversements. Car l'Église, qui est pour moi une deuxième maison depuis l'enfance, est le lieu où je fais l'expérience spirituelle la plus profonde. Je voudrais vous faire part des raisons pour lesquelles je reste et j'aime l'Église, malgré ses scandales. Tout d'abord, la richesse de la tradition. L'Église est dépositaire de la tradition spirituelle. Ce trésor se fonde sur la Bible, qu'elle ne cesse de réinterpréter afin qu'elle devienne une parole de consolation, d'encouragement et de guérison à chaque époque. Ce trésor se manifeste en particulier dans la mystique qui traverse toute l'histoire de l'Église, en commençant par la mystique paulinienne et joannique, puis par celle des pères de l'Église et des moines du désert. Comment ne pas penser également aux innombrables ouvrages spirituels dont certains sont des guides fantastiques pour l'élévation de l'âme? Il y a ensuite l'importance des sacrements. L'Église est gardienne des sacrements qui sont les lieux d'une expérience concrète de Dieu. Au travers d'eux, nous sommes touchés par l'amour guérisseur de Jésus-Christ. Le baptême nous montre quelle est notre dignité. Par lui, nous sommes enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, acceptés et aimés inconditionnellement par lui. Chaque jour, l'Eucharistie ne transforme pas seulement le pain et le vin en corps et en sang du Christ, mais elle nous transforme nous aussi, avec tout ce que nous portons de détresse, de faiblesse et d'affliction. Les célébrations réunissent en outre des personnes de tous les milieux sociaux. Dans notre société, qui se divise de plus en plus, l'Église unit et rassemble. Elle crée des liens et libère de la solitude. Le sacrement de miséricorde donne à ceux qui se sentent coupables et se rejettent eux-mêmes l'assurance que Dieu les pardonne et qu'ils peuvent donc se pardonner à eux-mêmes. Il y a ensuite la mission des édifices sacrés. les églises maintiennent le ciel ouvert au-dessus des hommes. Que serait une ville qui en serait dépourvue? Nous le voyons en Asie, où ce sont les centres commerciaux et les immeubles de bureaux qui définissent la ville. Les clochers pointent vers le ciel. Les cloches rythment le temps. Et leur son fait vibrer l'Esprit de Jésus en nos cœurs et apaise nos déchirements intérieurs. Il y a ensuite les saints, nos chers amis et figures lumineuses. À chaque époque, même les plus sombres pour l'Église, des saints se lèvent pour témoigner de Jésus-Christ et s'engager en faveur des hommes. Ce sont des figures lumineuses qui apportent la lumière dans la nuit. L'amour dont saint François rayonnait fascinait et inspirait ses contemporains. Je pense aux grands saints qui s'occupaient des malades, comme Vincent de Paul. Les ordres qu'ils ont fondés prennent soin des souffrants et des handicapés. Une bénédiction émane encore d'eux. Nous pouvons être sûrs qu'aujourd'hui des saints se lèvent, manifestant l'Église dans sa beauté, son amour et sa tendresse. Leur exemple nous donne l'espoir que notre vie aussi réussissent, que Dieu transforme nos erreurs et nos faiblesses pour qu'en nous s'épanouisse ce qui est bienfaisant pour le bien de tous. Et enfin, renouveler son amour. Pour toutes ces raisons, je demeure attachée à l'Église. Je rends grâce pour les 59 années que j'ai vécues dans mon monastère. Je suis reconnaissant de la liturgie que nous célébrons quotidiennement et pour tous les visiteurs qui viennent se nourrir spirituellement. Il n'est pas rare que ces derniers se soient éloignés de l'Église. C'est le cas par exemple des dirigeants d'entreprises que j'accueille pour des séminaires. Même s'ils viennent d'horizons divers, tous considèrent notre abbaye comme un foyer spirituel. Ils éprouvent l'effet curatif pour leur âme qui en émane. Les monastères ont une mission à remplir dans le monde d'aujourd'hui. Les paroisses sont un autre lieu de vie spirituelle et d'échange. Je ne peux que vous encourager à vous y engager. Elle constitue pour de nombreuses personnes en recherche une communauté qui les porte. Nombreux sont ceux qui y trouvent un nouvel espoir pour leur vie. Aimer l'Église, imparfaite et pleine de pécheurs, nous aide enfin à nous aimer, tout imparfait et plein de péchés que nous sommes. Mon amour pour l'Église rend mon amour pour moi-même humble, mais en même temps fécond pour les personnes qui m'entourent. Que votre amour pour l'Église se renouvelle. C'est ce que je vous souhaite, qu'il vous mène à un amour humble et en même temps puissant pour vous-même et pour les autres. Et pour terminer cet article d'Anselm Grün, je vais vous lire une prière qui s'intitule « Pour ma paroisse » et qui serait attribuée à Saint Paul VI. Collabore, prie et souffre pour ta paroisse à laquelle la Providence t'a confiée. Pour qu'elle soit une vraie communauté de foi, respecte le curé, même s'il a mille défauts. Il est délégué du Christ pour toi. Regarde-le avec l'œil de la foi. Ne juge pas trop facilement ses misères, pour que Dieu te pardonne tes misères. Participe fidèlement à l'Eucharistie, avec tout ton cœur. Réjouis-toi et souligne avec tous toutes les belles choses de ta paroisse. N'attache pas ta langue en t'acharnant contre l'inertie de ta paroisse, mais retrousse tes manches pour faire tout ce qu'on te demande. Souviens-toi, les ragots, les ambitions, l'envie de se mettre en vue, les rivalités sont les parasites de la vie paroissiale. Déteste-les, combats-les, ne les tolère jamais. L'humilité est la loi fondamentale de tout service. Et si tu es mis de côté, jette-toi dans la prière pour les pauvres, dans le travail pour les malades, les personnes seules et les marginaux. Il suffirait que ces secteurs soient vivants et la paroisse revivrait. Vous pourrez donc retrouver cette prière ainsi que les conseils du moine Anselm Grün dans Prier Magazine numéro 452. Nous allons maintenant surmonter les peines de l'amitié. Les blessures en amitié peuvent être à l'origine d'une perte de confiance et d'un profond chagrin. Alors comment les traverser pour en sortir grandi ? Je vais vous lire l'article paru dans Famille chrétienne, numéro 2367. En racontant sa rencontre avec Marie-Alix, 53 ans, elle a encore de la joie dans la voix. Nous étions toutes les deux étudiantes dans une grande école. Notre amitié a démarré de manière dense, immédiate, un peu comme un coup de foudre. Issues du même milieu, les jeunes femmes ont en commun leur foi chrétienne, un manque de confiance en elles, une simplicité et un même goût pour la marche en montagne. Très vite apparaissent aussi des différences. Si elles ont reçu une éducation dite classique, Marie a baigné dans un environnement un peu corseté, tandis qu'Alix a été élevée avec davantage de liberté. À nous deux, nous essayons de faire bouger les cadres. Nous nous complétions et rions beaucoup ensemble. Nous étions comme des sœurs, poursuit Alix. Qu'elle soit fulgurante ou progressive, l'amitié crée un lien réciproque unique. C'est très certainement le lien le plus précieux et le plus fort qui puisse exister entre deux personnes. Dans l'amitié, on ouvre la porte totalement à l'autre. On ose se confier sans craindre d'être jugé et on accueille l'autre tel qu'il est. C'est pourquoi les peines d'amitié peuvent plonger dans un profond chagrin. Car si nos amitiés véritables sont des rocs sur lesquels nous appuyer, au fil des années, des dissonances, des déceptions ou des petites trahisons viennent inévitablement blesser nos relations, parfois jusqu'à les rompre. On découvre par exemple qu'une amie a divulgué des confidences que nous lui avions faites. Ou bien on apprend que tel associé, considéré comme un ami, a utilisé une information contre nous. Des accidents de la vie, comme le veuvage, la séparation, la survenue d'une maladie, peuvent également occasionner des remaniements. Des amis se détournent ou s'éloignent, souvent par peur de mal agir, laissant les personnes dans une grande solitude. Ces formes de trahison induisent de la colère et de la tristesse, parfois une sidération lorsque l'on découvre que son ami n'est pas celui que l'on pensait et une peur de se confier à nouveau à autrui. Elles sont de rudes épreuves. En un sens, il n'y a pas de petite trahison, parce qu'il s'agit toujours d'une confiance trahie d'une manière ou d'une autre. Comment les surmonter ? Il n'existe pas de remède miracle pour consoler des peines d'amitié. À mon sens, elles sont même plus longues à réparer que les peines d'amour, note Anne-Laure Buffet qui a recueilli de nombreux témoignages. Il en ressort que certaines personnes vont être capables de s'épancher auprès d'un tiers, de dire parfois dans la colère du mal de leur ancien ami. D'autres, au contraire, vont devenir beaucoup plus mutiques. Avec le temps, qui est un merveilleux onguent, la douleur s'atténue, mais le chagrin et le vide profond créés par la rupture amicale perdurent. J'ai beaucoup pleuré, confirme Alix, se souvenant de l'épisode à l'origine de sa rupture avec son amie Marie. Des années après leurs premières vacances ensemble, les deux jeunes femmes ont désiré repartir marcher en montagne. Nous étions dans l'illusion de revivre la même chose. Or, nous avions changé. Marie avait tout organisé. Je suis arrivée en pleine forme, contrairement à elle qui était un peu déprimée. La souffrance psychologique de l'une n'a pu supporter l'enthousiasme débordant de l'autre et vice-versa. À un moment, sur un chemin de randonnée, cela a explosé. À la suite de cette forte crise, une gêne s'est installée entre les deux jeunes femmes et l'amitié n'a jamais pu reprendre réellement. Ni la demande de pardon d'Alix, ni une explication quelques temps plus tard n'ont pu changer la donne. Alix se confie « En parler à une amie commune m'a aidé à comprendre nos torts réciproques, même si je reste avec une part de mystère. Marie ne m'a jamais donné d'explication. Ne me disant rien, elle ne m'a pas permis d'avancer et de réparer. » Depuis, Alix a expérimenté avec une autre amie les bienfaits de l'ajustement au gré des aléas de l'amitié. Elle ajoute « Peut-être que la crise avec Marie était inévitable. Notre amitié de jeunesse avait été fusionnelle. Il fallait que chacune grandisse sans l'autre. Aujourd'hui apaisée, elle peut faire mémoire de tout ce qu'elle a reçu et donner de bon dans cette amitié. Si l'on peut ressentir de la peine pendant longtemps, la paix est revenue lorsque l'on peut dire simplement « J'ai eu une grande amitié ». En n'ayant plus d'attente de revanche, de réparation ou de retrouvailles vis-à-vis de la personne. Être dans l'attente immobilise, tandis qu'il s'agit de continuer à construire sa propre vie en tirant profit de cette blessure. Dorénavant, Alix veille à exprimer davantage ce qu'elle ressent dans une relation plutôt que de se taire par peur du conflit. L'écoute d'un psychologue ou d'un accompagnateur spirituel peut aussi permettre une réconciliation, sinon avec l'autre, du moins avec soi-même et avec Dieu. La vie est un don, porteur d'une grande promesse, souligne le Père Legrave. Ce don peut être abîmé, blessé par des trahisons et des peines d'amitié. Tout l'enjeu est d'éviter que celle-ci se transforme en amertume, en défiance à l'égard d'autrui et de la promesse qu'il y a dans la vie. Il y a donc sans cesse à revenir à l'origine de ce don pour empêcher ce poison-là de ternir notre existence. Priez avec les psaumes. Contemplez la manière dont le Christ, dans sa passion, s'en remet à son Père, alors qu'il est livré par Judas, renié par Pierre, abandonné de ses disciples, peut susciter en nous des forces inattendues. C'était l'article intitulé « Surmonter les peines de l'amitié » que vous pourrez retrouver dans Famille chrétienne numéro 2367. Nous allons maintenant parler de cette belle veillée pour la vie qui a eu lieu le mardi 23 mai à Saint-Germain-d'Auxerrois. Au programme de cette veillée, des temps de prière, de louanges ainsi que des témoignages afin de s'élever contre la fragilisation de la vie. Je vais vous lire un court article de présentation et puis ensuite je vous lirai le témoignage de Louis Bouffard. Les évêques d'Île-de-France ont organisé une veillée de prière pour la vie, donc qui s'est déroulée le 23 mai en l'église Saint-Germain d'Auxerrois. Au cours de celle-ci, les catholiques rassemblés pour l'occasion ont été invités à prier d'une seule et même voix pour la protection de la vie dans son ensemble. Au cours de cette soirée, dont le thème choisi était « La vie en plénitude », différents témoignages inspirants ont pu être livrés, ponctués par des temps de prière, de louange et d'une adoration eucharistique. Louis Bouffard, jeune étudiant de 23 ans, s'est notamment exprimé sur sa maladie génétique et dégénérative, à savoir la myopathie de Duchenne. Il disait « Choisir la vie, c'est aussi, malgré mon handicap, choisir de ne pas m'enfermer dans ma souffrance, mais de vivre pleinement l'instant présent. » Les participants ont également pu écouter la bouleversante histoire d'Axel Hubert, dont le mari Léonard est mort de la maladie de Charcot. Malgré les renoncements et les sacrifices endurés, et la torture d'être impuissante à soulager, Axel a témoigné de sa transformation à travers la terrible maladie de son époux. Elle nous dit « Je ne voudrais pas redevenir celle que j'étais avant. Ce fut douloureux, décapant, mais je ressors grandi de cette épreuve. » De son côté, Violaine Roger est assistante sociale et infirmière. Fondatrice de la Maison des plus petits, elle vient en aide aux enfants polyhandicapés de moins de 6 ans, privés de la présence de leurs parents. Elle nous dit « Le Seigneur a fait tomber les écailles de mes yeux et m'a donné cette grâce immense de le rencontrer. » Je vous présente maintenant Louis Bouffard. Un esprit vif, une plume engagée et une foi profonde définissent ce jeune homme de 23 ans qui a perdu l'usage de ses membres à cause d'une myopathie. La première chose que l'on remarque en rencontrant Louis, ce n'est pas son fauteuil, mais la vivacité et la profondeur de son regard. Étudiant en licence de droit à la Sorbonne, Louis est féru d'histoire et surtout totalement habité par une foi puissante qui l'aide au quotidien à porter des épreuves qu'un jeune homme de 23 ans ne devrait pas connaître. Une maladie de naissance tout d'abord, la myopathie de Duchenne qui lui a fait perdre peu à peu l'usage de ses membres. ce qui m'oblige à me déplacer en fauteuil électrique depuis l'âge de mes 10 ans, nous dit-il. Dieu m'a fait la grâce de pouvoir reconnaître et accepter ma dépendance totale. Le deuil arrive ensuite dans sa vie avec la perte brutale de sa maman suite à une chute de cheval en avril 2021, laissant la fratrie de 7 enfants, Louis étant l'aîné. Tous ensemble, mon père, mon frère et mes sœurs, nous restons dans l'espérance de la savoir auprès de Dieu dont elle contemple la face. Elle est toujours auprès de nous et continue à veiller sur chacun. Et au milieu de ces épreuves, l'écriture, avec la sortie le 24 août dernier de son tout premier roman édité aux éditions Teki, intitulé « Une lueur dans les tranchées », dont Monseigneur Gobillard, son oncle, a écrit la préface. Passionné d'histoire, Louis voulait à la fois écrire un roman historique mêlé à une aventure spirituelle pour élever l'âme. Voilà donc un jeune paysan, André, qui fait la connaissance de Cécile, une demoiselle de la bourgeoisie. 1914, la guerre éclate et André est envoyé au front. Dans l'enfer des tranchées, en proie à l'angoisse de la mort, il est proche de sombrer dans le désespoir. Mais la prière du chapelet et la découverte de Sainte Thérèse de Lisieux, l'amitié de ses frères d'armes et son amour pour Cécile vont l'aider à cheminer. De son côté, Cécile, depuis l'arrière, participe à l'effort de guerre comme infirmière. J'ai eu l'idée de ce livre pendant le confinement de 2020, mais je l'ai écrit dans l'été qui a suivi, d'un jet, 6 à 8 heures par jour pendant 2 mois, nous dit Louis. L'étudiant sérieux et consciencieux va alors passer près d'une année à le relire, à le retravailler et l'approfondir avant de le soumettre à sa famille. Les premiers retours de mes proches ont été très positifs. Alors je me suis décidée à l'envoyer à une maison d'édition. Et à ma grande joie, les éditions Teki m'ont répondu vouloir le publier. C'est donc chose faite. Et cette fois, ce sont les premiers lecteurs qui, à leur tour, s'enthousiasment pour ce roman profond, très précis historiquement, notamment sur la vie dans les tranchées et la présence de l'Église auprès de ces hommes au front. Louis pense déjà à un deuxième roman qu'il laisse mûrir en lui. En attendant, il compte intégrer un master de droit, qu'il suivra essentiellement en visioconférence, pouvant peu se déplacer. Mais il vit néanmoins dans un foyer de jeunes étudiants, à Paris, où il peut accéder à la messe quotidienne et rentre tous les week-ends chez son père en Seine-et-Marne, grâce à un voisin qui fait l'aller et retour pour le conduire. Il nous dit encore « À travers mon livre, j'aimerais toucher ceux qui, comme moi, se trouvent confrontés à des épreuves et à des souffrances, à ne jamais désespérer et à s'abandonner avec confiance à l'amour infini de Dieu. » Assurément, ce ne sont pas que des mots, mais bel et bien le vécu de Louis qui offre là un message plein d'espérance. Un message à diffuser facilement en offrant son livre aux jeunes. C'était le témoignage de Louis Bouffard que vous pourrez retrouver en ligne sur Aletheia. Nous passons maintenant à la culture chrétienne où je vais vous présenter 2 livres parus aux éditions Artege. Le premier, qui s'intitule « Pourquoi Padre ?», volume 2, 86 questions-réponses sur la foi chrétienne, écrit par les prêtres du Padre Blog. Se faire tatouer est-il un péché? Ne pas communier régulièrement rompt-il la communion avec Dieu? Dois-je suivre aveuglément l'Église? Comment Dieu peut-il m'aider quand je souffre? Les prêtres du Padre Blog ne reculent devant aucune question. Pour vivre chrétiennement dans le monde qui nous entoure et nourrir notre foi de la parole de Dieu, on peut compter sur la clarté et la solidité de leurs réponses. Ces courtes explications, accessibles à tous, sont complétées par une parole de la Bible et un extrait de l'enseignement de l'Église. Un ouvrage indispensable pour nourrir sa foi et en transmettre la flamme. Donc pourquoi Padre, volume 2, 86 questions-réponses sur la foi et la vie chrétienne des prêtres de Padre Blog aux éditions Artege. Ensuite, le livre du père Pierre Amar qui s'intitule « Prière dans les difficultés ». Quand j'ai des soucis matériels, quand l'inquiétude me ronge au sujet d'un proche, quand je manque de patience, quand on m'a causé du tort, quand un couple va mal ou qu'un enfant souffre, face à la maladie, la vieillesse ou le deuil. Personne n'est épargné par les souffrances et les épreuves. Mais lorsque l'on se tourne vers Dieu, comment lui demander son aide ? Que ce soit pour assister les plus proches ou pour nous-mêmes, ces courtes prières sont adaptées à toutes les situations. Je vais vous en lire quatre. Quand je perds l'usage d'un membre ou d'une fonction. Seigneur, cette nouvelle limite dans mon corps est une blessure que je veux t'offrir. Puisque tu la permets, donne-moi la force de la porter dans la patience, le courage et la confiance. Fais qu'elle ne soit pas un prétexte à la paresse et ne m'empêche ni de te servir ni de t'aimer. Quand j'ai des idées noires ou de suicide, garde-moi de toutes ces idées de mort qui ne viennent pas de toi, Dieu de la vie. Viens prendre possession de mon âme, de mon intelligence et de ma volonté. Je me méfie de moi-même, de ce que je pourrais dire, de ce que je pourrais faire. Je veux me réfugier en toi, sauve-moi. Quand j'en veux à Dieu, Seigneur, pardon, j'ai perdu la paix intérieure et j'ose te demander des comptes. Toi, le maître de ma vie, tu ne m'as pourtant jamais déçu ni trompé. Mais tes voix sont tellement incompréhensibles. Comme un enfant, je crie vers toi. J'ai confiance en toi, mais viens en aide à mon peu de foi et d'espérance. Quand je ne me sens pas aimé, Seigneur, je n'arrive plus à croire en moi, en ce que tu as mis en moi, en ce que je peux faire de bien, de bon et de beau. Éloigne de moi Satan qui veut me communiquer son désespoir. Donne-moi la confiance et l'espérance. Je crois que tu es la source de tout amour. Tu es mon Dieu et mon tout. C'était quelques prières extraites du livre du père Pierre Amar, Prières dans les difficultés, paru aux éditions Artege.
Chers auditeurs, c'était la revue de presse de Claire. Retrouvez cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr.